Nous savons que entre le moment où David a été oint par Samuel et le moment où il a eu un accès au trône, il s'est passé plusieurs années durant lesquelles David a eu des moments très difficiles et il a été obligé de se cacher. Et dans le psaume 63, nous allons lire les versets 1 à 3, il décrit quelle est son attitude alors qu'il est cerné de toutes parts et qu'il vit un moment très difficile. Donc psaume 63, versets 1 à 3. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Dans ce psaume, nous voyons que David utilise la situation qu'il est en train de vivre dans le désert pour parler aussi de ce qui se passe dans son âme. Dans un désert, en règle générale, on a soif, on manque de nourriture, on manque de tout. Mais il dit, au verset 1, « Mon âme a soif de toi ». Il ne dit pas que c'est son gosier qui a soif, il ne dit pas que c'est sa langue qui a soif, sa bouche qui a soif ou son corps qui a soif. Il dit que c'est son âme qui a soif. Parce que pour David, le bien de son âme et sa relation avec Dieu étaient plus importantes encore que les problèmes physiques ou matériels qu'il traversait. Et donc, il écrit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi ». Et on voit ici que c'est pas le corps qui cherche à avoir de l'eau, mais le corps même cherche à avoir la présence de Dieu. Et ça, c'est important, c'est-à-dire peu importe les situations que nous avons à traverser, là il s'agit d'une situation qui ne dépendait pas uniquement de la vie de David, c'est-à-dire qu'il subissait l'oppression de Saül et de ses ennemis. Mais dans notre vie, parfois, on peut traverser aussi des moments de désert, de solitude, d'incertitude, et on essaye de trouver des moyens pour que la vie soit plus agréable, mais on oublie peut-être un peu trop souvent de chercher la source de notre félicité, la source de notre paix. Et la source, elle est en Dieu. Et on voit que David, peu importe les situations, recherchait le Dieu vivant. Il n'en voulait pas à Dieu, il acceptait la situation. Ce qu'il demandait simplement, c'était d'être dans la présence de Dieu. Et au verset 2, il écrit quelque chose d'assez étonnant. Il dit ainsi, « Je te contemple dans le sanctuaire ». En réalité, David n'avait pas accès au sanctuaire. La tente d'assignation, puisque le temple n'était pas encore construit à l'époque, se trouvait quelque part en Israël, sans doute qu'il n'y avait pas accès. Mais en esprit, alors qu'il adore Dieu, alors qu'il est en train de prier, il contemple le Seigneur dans le sanctuaire. Nous connaissons en Ésaïe chapitre 6 ce passage mémorable où l'ange de l'Éternel ou la gloire de l'Éternel se présente à Ésaïe, et dans le temple il y a toute la pièce qui est remplie de la gloire de l'Éternel, et on sait même que Ésaïe a peur à ce moment-là. Mais là, David n'est pas dans le temple. Pourtant, il expérimente cette vérité. Il expérimente cette situation spirituelle. Il adore Dieu. Il connaît la loi de Moïse. Il connaît la signification de tous les objets qui se trouvent dans le tabernacle, dans le sanctuaire. Et donc, il se concentre non pas sur le désert, non pas sur la solitude, non pas sur les difficultés de la vie, mais il se concentre sur le sanctuaire. Et pourquoi il se concentre ainsi sur le sanctuaire? Pour voir la puissance et la gloire de Dieu. Ce qu'il ne voit pas dans sa vie, il veut le voir en esprit, auprès de Dieu. Et il ajoute, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et là, il est sûr que la vie de David n'est pas facile à ce moment-là, mais il ne cherche pas forcément à obtenir un changement dans son existence. Ce qu'il recherche, c'est de contempler la bonté de Dieu. Et ensuite, ça produit une louange à Dieu, puisqu'il écrit « Mes lèvres célèbrent tes louanges ». Il est intéressant de noter au verset 2, lorsque David écrit « Je te contemple dans le sanctuaire », le verbe « contempler » en hébreu parle d'apercevoir ou de regarder quelque chose, mais aussi ça a un sens spirituel qui parle de prophétiser, et c'est semblable à un voyant qui, dans un état extatique, un peu a des visions. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas un paysage, n'est pas simplement en train de penser à quelque chose et à se faire un film, mais il entre dans une communion avec Dieu et il a une vision qui est liée à une révélation de Dieu lui-même, où il peut contempler le sanctuaire alors qu'il n'est pas dans le sanctuaire. De la même façon, nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne sommes pas encore dans la présence de Dieu, nous ne voyons pas le trône de la grâce devant lequel nous devons nous approcher jour après jour, selon l'Épître aux Hébreux. Mais lorsque nous sommes concentrés, nous méditons sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur sa personne, par le Saint-Esprit, nous pouvons exprimer et nous pouvons recevoir aussi des vérités spirituelles qui vont bien au-delà d'une existence terrestre. Vous savez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles des fois on ne contemple pas Dieu. Là on voit que David, alors il ne s'agissait pas d'un péché là en l'occurrence pour lui, c'était simplement une situation difficile, mais parfois il y a d'autres situations dans notre vie où on s'interdit de contempler Dieu. Des fois c'est comme un désert ou une famine dans la vie, encore une fois parce qu'on subit des choses, hein, ça peut être le chômage, ça peut être des difficultés financières, mais ça peut être aussi un désert spirituel lié à une forme de tristesse. Peut-être qu'on est déçu de ce que Dieu a permis dans notre vie, on peut être déçu de nous-mêmes aussi, ou déçu des autres. On peut sentir en nous une forme de solitude, voire une culpabilité. La culpabilité nous empêche souvent de rentrer dans un processus où il nous est demandé de contempler l'Éternel. Parfois on a des remords, ou peut-être qu'on a peur, de Dieu, on s'interdit le droit d'être dans sa présence, peut-être qu'on manque de foi aussi. Il y a plein de raisons des fois qui nous empêchent de contempler l'Éternel. Et on est quand même assez particulier, parce que si on regarde un petit peu à la vie ordinaire, je dirais, que ce soit les chrétiens ou les non-croyants, mais lorsque parfois on passe un moment difficile, on cherche un moyen, non pas d'oublier, parce que c'est difficile parfois d'oublier certaines situations, mais on utilise l'expression en français, on se change les idées, il faut un peu se détendre, et donc on trouve des moyens pour le faire. Par exemple, certains aiment la peinture, et ils vont aller au musée, ils vont regarder des tableaux, et le fait de regarder des tableaux leur permet de sortir de leur quotidien. D'autres vont écouter de la musique, certains vont lire un livre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent voir autre chose que ce qu'ils sont en train de traverser ou de vivre ou de subir. De même, parfois, il y a comme une musique dans notre tête qui nous obsède et on a besoin d'écouter autre chose, de se changer les idées, comme on dit. Et on ne s'en prive pas, parce qu'on croit, on pense, et souvent c'est vrai d'ailleurs, que ça va nous détendre, ça va nous faire du bien. Et il ne nous viendrait pas à l'idée de s'interdire ces choses sous prétexte qu'on ne le mérite pas. On peut se dire, bah voilà, je passe un moment difficile parce que j'ai pris des mauvaises décisions, ou peut-être que je ne prends pas la décision que je devrais prendre, mais en tous les cas, voilà, il faut que je pense à autre chose, ou alors... Je suis peut-être malade et j'ai peut-être peur de ce que ça va engendrer pour le futur, mais je vais quand même aller au musée, je vais écouter autre chose. Et on ne s'interdit pas. Alors que spirituellement, très souvent, on s'interdit de contempler Dieu. À cause de notre situation, nous n'osons pas nous entrer dans le sanctuaire, nous n'osons pas profiter de ce que Dieu a en réserve pour nous. Il a une bonté pour nous. Bien entendu, on a besoin, au travers d'un processus de sanctification, s'il le faut, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de se repentir. On ne doit pas tricher avec Dieu et avoir un esprit de duplicité ou d'hypocrisie. Mais en même temps, c'est auprès de lui que nous aurons les sources de la vie. Et alors qu'on ne s'interdit pas des petits plaisirs de la vie pour se changer les idées, on va sortir, on va aller dans les magasins, on va peut-être s'acheter un livre ou aller au restaurant, et on va le faire parce que on en a besoin, mais on a besoin de Dieu aussi. Il ne faut pas que nos échecs, nos déceptions, notre solitude, notre dépression spirituelle peut-être, nous interdisent de contempler Dieu. Nous avons le droit, l'accès au trône de la grâce est encore plus ouvert pour nous que l'est la porte d'un musée ou la possibilité d'écouter un chant. Dieu est disponible, il est prêt à nous recevoir. Quelle que soit la situation où nous nous trouvons, nous pouvons contempler Dieu dans le sanctuaire. La clé là, c'est de ne pas être ennemi de Dieu, de croire qu'il est notre ami. Lorsque parfois on passe un moment difficile, on téléphone à quelqu'un en disant « Est-ce que je peux passer chez toi ? Est-ce que on peut prendre un café ensemble ?» On ne se l'interdit pas, mais avec Dieu, on se l'interdit. Comme s'il fallait à chaque fois se présenter d'une manière parfaite devant Dieu. Vous savez, Les tableaux sont beaux à regarder, parfois la musique est belle, mais Dieu est beau aussi. Il est magnifique, il est digne d'être contemplé. Alors, de façon pratique, vous pouvez me dire, mais comment contempler Dieu ? Contemplons-le, par exemple, en méditant sur certains versets bibliques. On peut contempler ses promesses, contempler ses recommandations, contempler sa gloire et les œuvres passées, contempler ce qu'il a fait dans notre vie. On peut aussi, c'est vrai, chanter des louanges à Dieu, par exemple, c'est une autre musique aussi. Mais à chaque fois, nous avons la possibilité de regarder à Dieu pour qu'il puisse changer nos pensées. Tout comme des plaisirs ou des festivités ou des divertissements peuvent des fois changer nos pensées. Mais combien plus encore Dieu peut changer nos pensées ? Contemplons Dieu jour après jour. Des fois, on va contempler Dieu au travers du corps de Christ. On va passer du temps dans l'église locale, passer du temps avec les frères et sœurs. Peut-être participer à une activité spirituelle. Mais en tous les cas, on va tout faire pour vivre d'une manière digne de notre appel, plutôt que de rester coincé et comme prisonnier dans un désert qui est souvent le désert de notre propre existence. On ne veut pas regarder à Dieu, on ne veut pas le contempler, parce qu'on ne mérite pas, et donc on se punit. C'est comme si on s'interdisait d'aller au musée, que l'on s'interdisait de lire un livre, que l'on s'interdisait de voir un ami. Non, nous avons le droit de contempler Dieu, nous avons le droit de le regarder. Qui que nous soyons, nous avons reçu une nouvelle nature, une possibilité en tant qu'enfant de Dieu d'aller voir notre Père Céleste. Et ainsi, on va s'approprier ses pensées. C'est ça contempler Dieu dans le sanctuaire, c'est s'approprier les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi maintenant ? Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que je fais, tout ce que je pense. Peut-être qu'il a une autre idée de la situation que je traverse et peut-être que je vis une forme de subjectivité. Néanmoins, aujourd'hui, parce que je suis vivant, le trône de la grâce est ouvert pour moi. Et donc il m'est demandé, permis, voire demandé de contempler Dieu, de contempler ses paroles et ainsi entrer dans une bénédiction qui m'est offerte jour après jour. En psaume 119, verset 18, l'auteur écrit ceci: « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Oui, nous pouvons demander à Dieu qu'il ouvre nos yeux. Parfois on est aveugle, parfois on est pris par nos émotions négatives, mais demandons à Dieu qu'il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse s'émerveiller des merveilles de la loi de Dieu. Là, le verbe « contempler » d'ailleurs est différent du verbe qui est utilisé au psaume 63. Ça parle de considérer quelque chose, de faire attention, de veiller. Vous voyez, là, c'est pas une phase extatique, c'est pas mystique, c'est simplement considérer la parole, la prendre pour ce qu'elle est, c'est vrai, c'est écrit, noir sur blanc, pas un iota de la parole va être retiré. Tout ce que Dieu nous a promis, c'est oui et amen. Et donc, je suis peut-être dans un désert, je vis peut-être une situation difficile, mais là où je suis, le sanctuaire est là, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je peux contempler Dieu au milieu de cette situation. Et du coup, je vais aller de l'avant, je vais être fortifié par l'Esprit du Seigneur, parce que j'aurai vécu quelque chose aujourd'hui, au travers d'une discussion avec un frère, au travers d'un temps de prière, au travers d'une méditation, un message biblique que je vais écouter, un passage que je vais relire. Bref, je vais utiliser tout ce que Dieu m'offre, je vais aussi lui demander que son esprit qui est en moi, les arts de l'esprit que j'ai reçus en attendant la gloire à venir, ces arts de l'esprit me permettent d'avoir des yeux ouverts et que je puisse contempler la loi de l'Éternel. En Jean 1, verset 14, l'apôtre a écrit ceci concernant la venue de Jésus sur la terre. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce qu'ont vu les apôtres les a amenés à la contemplation. Ils étaient étonnés de tout ce qu'il faisait. Ils étaient étonnés de ses paroles, de son enseignement, des miracles, de sa bonté. Là, il le dit, la parole s'est faite chair, elle était pleine de grâce et de vérité. Comment peut-on goûter à la grâce et à la vérité si on ne contemple pas Dieu ? Eh bien, aujourd'hui, par le ministère du Saint-Esprit et tout ce que Dieu nous accorde jour après jour, nous pouvons contempler la gloire de Dieu, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par Jésus-Christ, nous avons accès à cette gloire. Nous sommes peut-être dans un désert, et pourtant nous sommes des rois, nous sommes cohéritiers avec Christ. De la même façon, David avait été oint pour être un roi, et pourtant il n'exerçait pas cette royauté encore. Il n'était pas assis sur le trône. Il n'avait pas hérité de la promesse faite par Dieu au moyen du prophète Samuel. Néanmoins, même dans un désert, et alors que la promesse tardait à arriver, il expérimentait ces bénédictions promises parce que, dans une vision extatique, en esprit, il pouvait contempler Dieu dans le sanctuaire, et il y voyait la puissance et la gloire, et tout comme les apôtres, comme il est dit dans Jean 1, pouvaient voir un Dieu en Jésus-Christ plein de grâce et de vérité, David a pu écrire « Car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent tes louanges. » Que Dieu vous bénisse.